Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 21 janvier 2013, avec Michel dans les studios et Robert en duplex, pour aborder tout d'abord l'actualité internationale, incontournable bien sûr les événements du Mali et leurs corollaires en Algérie, mais aussi beaucoup d'autres sujets. Nous évoquons l'Irak, l'Arabie Saoudite, peut-être aussi la Côte d'Ivoire. Alors, l'actualité chaude, on va dire, c'est la victoire de Tigane Tourine, le site gazier d'In-Amenas en Algérie. Victoire, c'est le gouvernement algérien qui prononce ça. Alors, sur quoi il fonde sa victoire? Sur le fait qu'il a libéré 792 otages, effectivement, c'est pas mal, dont 685 Algériens. Et à côté de ça, évidemment, il y a un certain nombre de victimes, la manière dont les attaques ont été menées sans ménagement. Il semblerait que finalement, on en est pour le moment à 27 otages tués, plus 5 dont on ne sait pas, 37 otages tués, plus 5 qui ont disparu, 28 Algériens. Même pas algérien, qu'est-ce que je dis, islamistes radicaux, terroristes, comme vous voulez, tués, et 3 autres arrêtés vivants. Donc l'affaire est maintenant terminée pour ce qui est de l'attaque du site. Tout est sous contrôle du gouvernement, des militaires algériens, qui se félicitent donc de la fin de cette attaque à la manière dont ils ont toujours réglé ce genre de problème, c'est-à-dire sans tenir compte des otages, ils ne refusent de négocier et ils cherchent à les exterminer d'abord. Les terroristes qui pratiquent ce genre de méthode. Ça, donc, pour l'Algérie, on peut difficilement ne pas lier ça à l'aventure du Mali, puisque là, il semble que ça fait moins de morts, encore que c'est pas sûr parce qu'on n'a pas vraiment de rapport, mais les militaires avancent, les militaires maliens et les militaires français. Peut-être que la présence des militaires français a donné beaucoup de baume au cœur et sans doute aussi un peu de matériel aux Maliens qui, du coup, filent vers le nord. La ville de Diabali qui avait été prise par les islamistes a été reprise et on continue de monter vers d'autres villes plus au nord, l'objectif étant une reconquête intégrale du territoire du Nord Mali. C'est pas encore fait, mais le général Hollande, toujours tout seul au combat, s'est donné ça comme objectif, tout en regardant à droite, à gauche, derrière lui et au sud surtout, si les Africains ne voulaient pas en nombre suffisant lui emboîter le pas. Voilà pour cette présentation rapide de la situation à l'heure qu'il est. On peut aussi faire quelques commentaires. Michel, si vous...
Oui, alors, à commencer déjà par la libération du site en Algérie d'Anemas. Est-ce qu'il faut conclure un succès ou un échec? On va dire un succès, puisque voilà, sur 700 et quelques otages officiels, tous libérés à une cinquantaine près, selon les derniers chiffres. Sans faire de cynisme, c'est effectivement pour le gouvernement algérien une opération réussie, mais il faut aussi rappeler les faits. Anema, c'était pas n'importe quoi, c'était un site hautement stratégique, donc un complexe gazier d'importance, un très gros gisement qui, pour Anemas et les sites environnants, étaient quand même sous la protection officielle de l'armée algérienne. On parlait de plus de 1000 hommes, hein. Donc l'armée était présente, et sans compter au sein du site, on l'a vu, ne serait-ce que par le cas de notre otage qui a été exécuté, qui était un ancien des services secrets reconverti on va dire mercenaires aux forces de sécurité, c'est-à-dire que sur le site même, donc géré par Solintech, on faisait appel à des services étrangers hein, de protection.
Ouais. On a même pu lire, un détail, mais que les Algériens, alors bon, c'est facile pour eux de dire ça, dire que si les Européens, enfin les Occidentaux ont autant de problèmes, c'est parce que pour des raisons d'économie, ils avaient considérablement réduit les forces de protection qui s'occupaient d'eux, quoi. C'est peut-être un peu facile, mais c'est peut-être un peu vrai aussi qu'il n'y avait pas une protection sur le site à la hauteur de ce qu'il aurait fallu qu'il y ait.
En tout cas, oui. Rappelons le contexte. Hein. Les forces françaises s'engagent au Mali. Donc, il est clair que tous les États environnants doivent être sur leur qui-vive, à commencer par l'Algérie, donc qui doit surveiller de près ses frontières et qui plus est ses sites stratégiques, dont faisait partie Inanemas. Donc ça a été un échec sanglant, puisque une quarantaine de terroristes officiellement arrivant du Nord Mali, certainement de Libye, qui est toute proche, ont réussi donc à rentrer dans le complexe et à prendre en otage dans un premier temps des centaines de personnes. Donc on a parlé aussi d'échecs, hein. Donc il est facile maintenant de crier victoire maintenant que le site a été libéré, mais à un prix humain qui est quand même assez conséquent, surtout proportionnellement pour le nombre de personnel étranger sur le site, pour les Algériens nettement moins. Mais juste à rappeler effectivement que ça nous a tenus en haleine, mais dans le même temps, puisqu'on parle de terrorisme, les terroristes en Irak ont fait une cinquantaine de morts hein, dans la même période en Irak. Et on en a, pour ainsi dire, pas parlé ou pas du tout. Les modes opératoires sont les mêmes et certainement les financiers sont les mêmes. À savoir, en Irak, c'est pas que j'ai envie de sauter du coq à l'âne, c'est des financiers du Golfe et notamment d'Arabie Saoudite qui financent l'émanation d'Al-Qaïda en Irak, donc pour soutenir la cause des sunnites contre les chiites qui aujourd'hui sont majoritaires et exercent le pouvoir. Et aussi dans le nord, on l'a vu, dans le nord du pays, en Irak, dans cette zone de partage entre les Kurdes, les Arabes, les Turkmènes, qui est Kirkouk et qui est hautement stratégique. Et là aussi, on a vu des attentats, donc les derniers jours, anti-Kurdes d'importance. Si je me permets d'évoquer l'Irak en parlant du cas d'Anmas en Algérie, c'est juste pour rappeler que on se débarrasse pas des terroristes comme ça. On a beau les exterminer ou la volonté de vouloir les détruire, comme l'a dit notre président. Toujours est-il que si on s'attaque pas au mal, à savoir au financement, on l'éradiquera pas. Et le souci hein, dans nos engagements, donc dans le Sahel, dans le Sahara, dans cette région, c'est qu'on a été suppléé à un État malien déficient. C'est pas tant les terroristes islamistes qui étaient forts que l'État malien qui était faible, totalement désorganisé, notamment ses forces, qui a permis l'installation donc de cet international islamiste dans cette région allant de la Mauritanie à la Libye. Et les choses ne vont pas changer. Hein. On peut pas tenir à 2000 soldats français suppléés par les forces africaines qui se bousculent pas d'ailleurs pour les aider. Une région qui est grande comme pratiquement les deux tiers de l'Europe. Juste rappeler que à force de construire donc ces terroristes, on a beau effectivement se féliciter de leur destruction, quoi, le moment venu, mais il est à craindre effectivement que tant qu'on ne s'attaquera pas aux causes et notamment au financement, et on sait très bien d'où vient le financement, mais ça c'est un autre problème, s'attaquer aux pays du Golfe et notamment à l'Arabie Saoudite, ça c'est un sujet qui est encore tabou.
Voilà, Robert, tu voulais peut-être intervenir là-dessus aussi.
Oui, je crois que vous avez dit l'essentiel de ce qu'on peut dire et surtout analyser aujourd'hui à la lumière des événements. Je retiens moi de trois points, à savoir que la proximité de la prise d'otage, proximité de la Libye, effectivement, montre bien que il y avait déjà un plan établi, et on dit que ce plan date au moins de 2 mois, tellement il était bien préparé. Donc, le plan était antérieur à l'intervention française, même presque antérieur avant le vote de l'ONU, ce qui veut dire qu'il faut effectivement peut-être distinguer deux aspects. Il y a à la fois l'aspect de contrôle de cette région sahélienne par ces groupes de djihadistes fachos, comme disait Michel, on ne sait plus très comment les appeler. On n'a pas du tout envie d'utiliser le mot islamiste comme le font les médias, ce qui n'arrange sans doute pas les choses au niveau des compréhensions. À côté de ceci, il y avait donc aussi un désir de déstabiliser l'Algérie. L'Algérie, on sait qu'elle a payé un lourd tribut dans cette bataille dans les années 90 et qu'elle pensait à peu près d'avoir terminé en passant une espèce de compromis avec ceux qui au sein du GIA constituait une possibilité d'entente. Donc ça semblait à peu près terminé, sauf comme toujours des équipes irréductibles qu'on appelait l'ACMI, qui donc c'est recouvert du label djihad Ben Laden, tout ça, ça fait effectivement au niveau de la popularité auprès de jeunes qu'on enrôle plus ou moins de force au nom d'un avenir supérieur au-delà de la vie. Donc il y a une conjonction de plusieurs événements et ce qui moi me surprend, c'est que finalement l'équipement de ces gens qui ont donc la volonté de créer un État qui serait le leur dans la région. Tous ces pick-up dont les constructeurs automobiles vont bientôt célébrer la grande efficacité. Alors, qui les fournit, comment ils arrivent, passent-ils par la Libye, passent-ils par d'autres voies, et puis l'argent, effectivement, comme ça a été dit, il y a l'argent indiscutablement qui sort d'Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats Arabes Unis, mais aussi il y a effectivement le produit des rançons qui sont des produits colossaux et avec lesquels effectivement on peut acheter pas mal de choses également. Les armes, eh bien il suffit de négocier avec les armes pas chères, avec les résistants entre guillemets, ceux qui ont abattu Kadhafi, avec la bénédiction des Occidentaux qui aujourd'hui reçoivent le prix de leur stratégie néo-impérialiste et néo-coloniale. Aujourd'hui, on paye le prix fort de ce qui s'est passé en Libye et qui va se passer demain en Syrie si effectivement on ne fait pas une analyse. Certes, c'est désagréable de dire il faut pas, c'est pas le moment de chasser Bachar. Alors évidemment, c'est désagréable à dire. Et pourtant, c'est bien dans une stratégie de long terme et qui entrerait dans une conception de refus de ce néocolonialisme que l'on abrite derrière la lutte anti-islamique radicale. C'est une guerre qui comme toutes les autres guerres finalement a des rapports de force qui sont de nature impérialiste.
Voilà, bon, on a pas mal développé ce sujet, on en a peut-être quelques autres quand même. Michel, tu voulais aborder autre chose? Les élections israéliennes dans 2 jours, oui, Netanyahou favori.
Juste pour dire que voilà, là aussi, je ferai plus une analyse que vraiment une note sur les élections israéliennes. C'est-à-dire, sont déjà la part consacrée par les médias, notamment les médias français, à une non-élection. Par avance, on sait que la coalition Likoud, Israël, Netanyahou, donc la droite dure, pour pas dire un peu facho, israélienne, va être reconduite et que par conséquent, donc le premier ministre sortant, Benjamin Netanyahou, donc va être reconduit pour 4 ans. Juste à préciser que si on faisait un parallèle de ce type de coalition, on serait sur un parti qui serait à l'extrême droite en France. Hein. La politique actuellement de Netanyahou et qui se durcit, et qui s'est durci pendant cette campagne, qui a été de l'avis de tous les observateurs assez morne, c'est quand même une campagne où c'est la préférence nationale, la préférence juive, la non-reconnaissance des frontières de 1967, donc hors de question de parler d'un quelconque État indépendant palestinien. Donc on voit bien effectivement où il met les plans de paix possibles, donc avec le voisin palestinien. Et que si on était vraiment en accord avec nos principes, nous qui se voulons au-dessus de la mêlée, nous Européens, hein, un grand principe, on mettrait donc au banc Israël, ne serait-ce que pour les options qu'elle nous présente en vue de la reconduction pour les 4 années à venir. Or, il n'en est rien. Non seulement nos journaux, nos radios s'apprêtent à nous faire vivre en quasi-live ce non-événement, donc cette élection, mais dans le même temps, voilà, on accepte, on avalise cette dérive complètement extrémiste de la scène politique israélienne.
Robert, là-dessus, sur autre chose ?
Non, je vais parler de la situation en Colombie, surtout de la situation des négociations de paix qui avaient démarré à Oslo, qui se sont poursuivies à La Havane. Les FARC ont décidé de ne pas renouveler la trêve qu'ils observaient depuis 2 mois, pour la bonne raison qu'en face, c'est-à-dire le gouvernement colombien, lui, qui ne s'était pas engagé dans une trêve, a continué les opérations contre les FARC. Et donc les FARC disent aujourd'hui, puisqu'en face on ne veut pas observer de trêve, nous n'allons pas quand même nous laisser massacrer au nom de l'ouverture des négociations de paix, bon, qui ne semble pas être remise en cause en tant que telle. Simplement, c'est un constat sur le terrain que font les FARC, que leur bonne volonté, finalement, n'a pas été récompensée, n'a pas eu de il n'y a pas eu de retour la concernant. Je voulais dire un mot aussi, sans commenter, parce que c'est une grande messe du capital internationaliste avec tous ses agents. C'est Davos qui s'ouvre dans 2 jours avec la présence, on nous dit, d'une cinquantaine d'États. Alors, soit sont les présidents, les rois, soit des chefs de gouvernement. Et puis, 2500 personnes, moi je les appelle les VIP. Alors c'est les VIP du monde de l'industrie, de la banque, des experts en tout genre. Et on sait aujourd'hui combien les experts nous serinent à longueur de journée dans les médias et dans la presse écrite sur leurs analyses qui se ressemblent toutes et qui consistent simplement à dire que la crise, c'est la crise. Qu'avant la crise, c'était pas la crise, mais qu'après la crise, ça sera sans doute encore la crise. Enfin, bon, un discours complètement insupportable. Troisième sujet que je voulais rapidement développer, on a appris que c'est au niveau de l'Europe, hein, que Monsieur Juncker, c'est un personnage, ce Juncker, ce luxembourgeois qui depuis 8 ans est à la tête de l'Eurogroupe. Alors qu'est-ce que l'Eurogroupe ? L'Eurogroupe, ce sont ces réunions, sans doute toujours autour d'un bon gueuleton, de tous les ministres des finances européens. et qui font des pronostics et puis donnent quelques idées qui ne servent souvent pas à grand chose, sinon à cautionner ce que font la Banque européenne et puis le Fonds monétaire international et puis d'autres instances. Alors ce monsieur Juncker qui est au gouvernement depuis 30 ans au Luxembourg, 30 ans qu'il est au gouvernement. Voilà, souvent on essaye de détrôner des gens dans les pays africains parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années qu'ils sont au pouvoir, mais lui, voilà un qui est au pouvoir depuis 30 ans, certes dans un petit pays, mais dans un petit pays qui est un paradis fiscal, un des coins où il se passe beaucoup de choses et des choses peu glorieuses qui sont le support parmi d'autres du capitalisme. Donc Juncker s'en va. C'était un social chrétien qu'on disait de gauche parce que souvent il disait à ses camarades ministres, il faut quand même qu'on pense à faire un volet social dans l'Union européenne. Alors il disait ça de temps en temps et puis naturellement il se passait rien. Alors on pense que c'était plus pour son image de marque qu'il faisait ça, parce que si effectivement il avait voulu que des choses se passent, il n'aurait pas continué à cautionner cette politique très austéritaire de l'Europe. Et alors il a échoué à la tête de l'Union européenne, c'était un Belge, on s'en souvient, qui a été il y a 2 ans élu. Et il voulait être, heureusement, on y a échappé à ça, même si le président de l'Union européenne, ça ne représente pas grand-chose. Alors il sera remplacé par un Hollandais. Alors la Hollande, c'est un peu aussi un paradis fiscal, mais c'est quand même peut-être un peu moins scandaleux que le Luxembourg. Voilà.
Un Hollandais de fraîche date, puisque le type est ministre des Finances là-bas, mais depuis 2 mois seulement. Alors je ne sais pas ce qu'il a fait avant.
Oui. Mais... Personne ne le connaît, oui. Il y avait cette élection allemande, mais vous voulez peut-être la commenter, Michel.
On peut peut-être dire aussi à propos de l'Eurogroupe que Moscovici, qui lorgnait un peu le poste, a été évincé, et le candidat Allemands aussi, oui. Parce qu'ils ne sont pas assez consensuels, paraît-il.
On voulait un petit pays, oui. Mais...
Alors, on disait l'Allemagne, oui, Merkel perd du terrain un peu partout, déjà 4 Länder, donc le quatrième a une voix à un siège près, mais elle n'a plus la majorité en Basse-Saxe. C'est ça que tu voulais évoquer ?
Oui, je n'avais rien de plus. Je cherchais en vain savoir si la gauche de gauche, le Die Linke, avait un siège, mais à mon avis, il n'en a pas. Mais voir comment va se constituer cette majorité qui n'en sera pas une, mais qui est les socialistes avec les Verts.
Petite nouvelle européenne aussi, les Autrichiens votaient pour le maintien ou l'abolition de la conscription. Et les Autrichiens, bien égaux à eux-mêmes en cela, ont décidé de maintenir la conscription. Tant pis pour les jeunes Autrichiens. Il paraît que c'est les vieux qui ont voté pour ça, les vieux. Les jeunes votaient pour l'armée de métier. Michel, oui.
Juste à rappeler la neutralité de l'Autriche.
Toute relative.
Toute relative, bien entendu, mais officiellement pays neutre, donc non membre de l'OTAN. Enfin, ce qui est devenu rare quand même au sein... de l'espace européen.
On aurait bien aimé les voir neutres en 1940. à
propos d'armée, c'est le chef d'état-major des armées suédoises qui fait scandale, qui estime effectivement que l'ennemi pourrait envahir la Suède en moins de 15 jours, puisqu'il ne lui reste plus que 7 bataillons. Donc il se plaint effectivement auprès de son gouvernement en disant qu'on a ramené l'armée suédoise vraiment à une portion congrue. Et le sous-entendu, c'est que les soviétiques, bien sûr, anciennement soviétiques, les Russes, pourraient envahir la Suède en 15 jours. Sans armée. Mais derrière ce débat, enfin pseudo naïf finalement, se cache la volonté de certaines personnes, dont le chef d'état-major des armées, d'intégrer donc l'OTAN et donc de se dédouaner derrière le fameux bouclier otanesque pour justifier donc les baisses d'effectifs. Alors juste à rappeler, puisqu'on évoquait le cas autrichien, c'est que la tendance, effectivement, n'est plus à l'armée de conscription. Mais le souci avec les armées de métier, c'est que les effectifs sont réduits. Ce sont des armées de plus en plus aiguerries, mais qu'on voit effectivement de plus en plus souvent sur un terrain d'opération otanesque. On l'a vu en Afghanistan avec la présence d'une vingtaine de pays membres de l'OTAN quand même sur place. Tout le monde a donné sa contribution. On le voit même au Mali, ne serait-ce que d'un point de vue logistique. Les Allemands, les Britanniques officiellement participent, les Américains aussi, mais ils ne sont pas européens. Peut-être d'autres, je ne sais pas. Et la tendance lourde est vraiment dans ce sens-là, c'est-à-dire faire des États européens, des États qui ne sont plus à même de se défendre tout seuls, mais dont on va spécialiser dans telle ou telle branche les forces et pouvoir les mettre à disposition donc d'une cause commune qui est bien sûr la cause otanesque, qui bien souvent répond à des impératifs d'ordre purement démocratique et philosophique, bien sûr, jamais une histoire d'intérêt.
Voilà, faut pas qu'il le chante trop fort, le Suédois, qui n'a plus les moyens de se défendre, ça pourrait donner des idées à Al-Qaïda. Bon, ceci étant dit, 1963, le 22 janvier, c'est demain, se signait le traité de Gaulle-Adenauer, duquel on fait tout partir, c'est peut-être un peu abusif, en matière de coopération franco-allemande. Certains disent que c'est un mythe, mais qui fonctionne bien. De Gaulle et Adenauer signaient une espèce d'accord de coopération sans pour autant entamer la souveraineté de chacun des deux pays. C'était le début de l'Europe qui s'était déjà construite sur les aspects économiques, puisqu'en 62, il y a eu le traité de Rome déjà. Et puis, bien tout cela perdure et a traversé un certain nombre de dirigeants à travers Pompidou, Giscard, Sarkozy et aujourd'hui Hollande pour continuer une coopération franco-allemande dont tout le monde se félicite.
Oui, on peut rappeler que ce rapprochement, il avait aussi un objectif, c'était de faire barrage à l'Union soviétique. On a un peu oublié longtemps après cet aspect des choses, mais ça faisait aussi partie de la stratégie.
Voilà, d'autres sujets internationaux ou européens que vous souhaitiez traiter, l'un ou l'autre, non ? On fait une pause musicale avec... on va rester dans les mêmes périodes. Tiens, le Baby Boom, c'est une chanson de Pierre Delorme.
On avait du linoléum et sur la table du bulgum pour la belote le dimanche. Il y avait des radios là, et dans le quartier un cinéma où passaient nos premiers comanches. C'était le début du baby boom. Les riches avaient des quatre chevaux, les autres roulaient à vélo, les enfants sur le porte-bagages. Le centre-ville était là-bas et la campagne juste à deux pas. On y allait en pèlerinage, faire prendre l'air au baby-boom. Et on portait des gros brodequins pour mieux shooter dans les gadins. Il y avait encore des hirondelles. La mort passait sur sa moto derrière l'autobus à Toto pour couper les gosses en rondelles. Certains manquèrent le baby boom. Il y avait des choses et des objets, des ustensiles comme des jouets, des grues en moulin à gruyère. Il y avait encore des coquelicots sur les talus, mon petit coco. Des pissenlits, mais pas de bruyère. Dans ces coins-là du baby-boom. À l'horizon industriel, on voyait ces trous dans le ciel, par où le bon Dieu nous observe. Mais nos anges gardiens, sans doute, qui ne savaient pas jouer au foot, nous regardaient le cul dans l'herbe. Ils contemplaient le baby-boom. Nous ouvrions tout grand les yeux devant un monde merveilleux. Nous ne savions rien de naguère. Mais dans les tiroirs des buffets, il y avait toujours les tickets du pain rassis de la dernière guerre, qui fut la cause du baby-boom. On voyait les maisons pousser et les cheminées noires tousser leurs vieilles nuées charbonneuses. Chaque jour était un progrès, on laissait hier sans regret, c'était ça les trente glorieuses. Dans la gloire du baby-boom, c'est nous qu'on était le baby-boom, aujourd'hui on fait plus bien boum, on est rangé dans nos pantoufles. On surfe un peu sur Internet, le monde est de moins en moins net. On se demande où le vent souffle, à quel endroit ça va faire boum.
Chanson de Pierre Delorme qui sera sur scène à Lyon à tout bout de champ vendredi et samedi avec Frédéric Bobin, un beau duo, hein, pour chanter Dylan, Cohen et d'autres Américains. Un coplateau avec une certaine Dorothée Daniel. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce lundi 21 janvier 2013 avec Robert en duplex, Michel Jean-Pierre. Robert, tu vas nous parler du Front de Gauche qui se délocalise à Metz.
Oui, c'est-à-dire que c'est un peu l'entrée en campagne plus forte, appuyée un peu sur l'accélérateur du Front de Gauche. Front de Gauche, c'est les 4 millions de voix qui ont permis à Hollande de passer, et surtout qui ont permis de virer Sarkozy. Mais on ne voudrait pas que, disent les gens du Front de Gauche, que Hollande finisse par ressembler de trop près à Sarkozy, ce qui, hélas, en matière économique, bon, même si ce n'est pas tout à fait vrai, en matière sociétale, c'est quand même relativement assez vrai en matière économique et financière. Donc il y aura ce rassemblement de Metz, là, dans deux jours, le 23, où seront reposés les problèmes comme ceux qui a concerné les plans sociaux des sidérurgistes, notamment ceux de Florence, et puis en même temps. Florence, oui, pardon. Et en même temps, tout ce qui peut être dit et fait à propos des plans sociaux, c'est-à-dire, oui ou non, n'aura-t-on pas peur, comme c'est le cas aujourd'hui, et combien de temps de procéder à des contrôles public, c'est-à-dire, on peut appeler ça comme on veut, une nationalisation, des contrôles publics qui permettent à la fois de prendre en main ce que le patronat et la finance ne veulent plus supporter, parce que soit ça ne rapporte pas assez d'argent, ou comme ou pour des raisons de stratégie d'organisation des sites de par le monde, bien qu'on gagne beaucoup d'argent comme Sanofi, on veut quand même supprimer un certain nombre de choses, et notamment par exemple autour de Lyon. Donc le front de gauche monte au front. Et par rapport à cette campagne, il lance un appel, et ça s'appelle l'appel des 99%. Alors ça va surprendre les gens. 99%, ça veut dire quoi? Il suffit de lire la première ligne de l'appel qui est en forme de pétition et qui dit ceci: nous qui ne sommes pas dirigeants des plus grandes entreprises privées françaises, mais qui faisons partie des modestes 99% de salariés, chômeurs, retraités, étudiants, etc., qui composent la population, affirmons qu'il est nécessaire de relancer le pouvoir d'achat et la justice sociale. Donc on passe le curseur assez bas, on parle simplement du pouvoir d'achat, on va dire si c'est le pouvoir d'achat, c'est un vieux slogan qui finalement ne va pas très loin, c'est pas en augmentant le pouvoir d'achat qu'on va véritablement changer le rapport de force, etc. Mais bon, c'est la base. Alors, pouvoir d'achat, justice sociale, et ensuite la mise en cause du système, et surtout la non-tenue des promesses de Hollande, le fameux discours du Bourget sur attention à la finance, vous allez voir ce que vous allez voir, et puis bon, on a bien vu qu'il ne s'est rien passé. Et puis donc tout ce qui a été la réorganisation bancaire qui n'a pas encore eu lieu et qui semble abandonnée, sur la possibilité de faire intervenir l'Europe pour la relance, mais quelle relance de la croissance? Est-ce que c'est une relance? De toute façon, il n'y a pas de relance du tout, mais de quelle relance aurait-on été le témoin? Réindustrialisation, les entreprises effectivement qui font des plans sociaux après avoir touché du fric, enfin plein de choses comme ça. Et tout ça, donc, c'est un appel à signer cette pétition qu'on va trouver largement. On rappellera simplement que le Front de Gauche, eh bien, c'est le Parti communiste, c'est le Parti de Gauche, le parti dont l'un des présidents, avec une coprésidence avec Mélenchon, c'est la gauche unitaire, c'est la FAS, Fédération pour une alternative sociale écologique, c'est Convergence et Alternative, c'est aussi la gauche anticapitaliste, mouvement sorti récemment du NPA, et aussi ce sont les alternatifs Rouge et Vert, une organisation qui a plusieurs décennies, qui a changé de nom, et qui regroupe, au départ, ça peut évoluer, des gens qui venaient du PSU après la dissolution de ce parti en 1990, voilà 20 ans. Voilà, c'est cette campagne que lance le Front de Gauche pour que Hollande et son gouvernement social-libéral sentent monter sur sa gauche une pression qui l'oblige à manœuvrer autrement en matière de finances, d'économie et de justice sociale.
Voilà, donc pour tenir l'horaire, je vais te laisser à tes obligations pour ce soir et lundi prochain. Donc.
Oui.
Michel, tu avais un sujet en national que tu souhaitais qu'on évoque?
Pas vraiment, non.
Alors, je commence. Eh bien, on peut parler du plan quinquennal que Hérault a présenté aujourd'hui de lutte contre la pauvreté. Alors, ce qui fait bien, c'est que, attention, hein, c'est pas des centimes, c'est 2 milliards d'euros. Calmez-vous, c'est sur 5 ans. Déjà, ça change tout, ça fait plus de 400 millions par an. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? Il y a plusieurs volets. Il y en a un qui me paraît un petit peu curieux, mais sympathique néanmoins. 10% des enfants accueillis dans les crèches doivent être des enfants de pauvres, c'est-à-dire de gens qui ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté défini par je sais pas qui. Bon, moi, je veux bien, c'est très bien, mais comment va-t-on choisir parmi tous les pauvres ceux qu'on va sélectionner pour faire partie des 10%? Parce que je pense qu'il y a, il y aura plus de candidatures que 1 sur 10 des gamins en crèche actuellement. Ça, c'est un autre problème. D'autant plus que le groupe de travail qui avait fait cette proposition lui réclamait une proportion de 20%, ce qui semble bien montrer que le besoin était là. Mais tout ça a un coût. Et de toute façon, ne vous précipitez pas demain dans la crèche de votre quartier. Ça va être négocié au mois de septembre avec la CAF. Donc c'est un coût de 2014, cette affaire. 2014, sans doute aussi, le RSA jeune devrait être mis en place, qui est une bonne mesure quand même. Vous savez que les gens de moins de 25 ans n'avaient pas droit au RMI devenu RSA. Donc, de 18-25 ans, les non qualifiés, sans revenus, pourraient bénéficier de 450 € par mois. Ça aussi, c'est à voir, à mettre en place à partir de septembre. Il y aura quand même, je crois, une contrepartie d'engagement, de travail à quelques heures par semaine ou alors de recherche d'emploi. Enfin, il y a un minimum d'encadrement hein, dans cette affaire. Il y a une réforme de la CMU qui est plutôt sympathique parce qu'elle devrait ouvrir la CMU à peu près 500 000 bénéficiaires de plus, c'est-à-dire qu'on arrivera à près de 5 millions de bénéficiaires de la CMU en France, qui laisse aussi un petit peu pantelant par rapport à la situation sociale pour qu'il y ait 5 millions de gens qui ne bénéficient pas de la Sécu dans des conditions normales. Il est aussi question, dans le domaine du logement, de créer 8000 places en hébergement pour les sans-abri et demandeurs d'asile. Il est question de créer une aide aux ménages modestes pour le moment. Ce qu'on a créé tout de suite et sans tarder, c'est une aide aux ménages riches. Je vous rappelle qu'il y a une loi du FLO qui se propose de payer jusqu'à 60 000 € sur les logements des plus riches qui les achètent pour les louer. Alors là, on a trouvé le pognon pour le distribuer. Puis il y a aussi un fichier national des crédits des particuliers, donc tout ça pour essayer d'encadrer et limiter les surendettements. Du côté des associations, on trouve que c'est bien gentil, mais que c'est pas suffisant parce que les migrants, les détenus, les handicapés ne sont pas vraiment pris en compte à titre spécifique dans ce plan de lutte contre la pauvreté. Commentaire ?
Oui, enfin, faut bien faire du saupoudrage social. Faut rappeler qu'on est quand même de gauche, hein, au Parti Socialiste.
Donc ça relève effectivement un petit peu de cette démarche-là. Et puis ben Hollande va recevoir des anti-mariages homo qui se plaignaient de ne pas être entendus. Donc à mon avis, c'est pas pour changer la loi comme il a prévu de la faire, mais c'est du moins pour essayer de les calmer et de les convaincre. Il aura un petit peu du mal, quoi. Pendant ce temps-là, l'UMP, c'est à Chaumont, je crois, un meeting ce soir, se mobilise pour le mariage pour tous, du moins certains de ses membres. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Ah oui, il y a la fameuse loi, le projet de loi présenté par Valls sur les nouveaux modes d'élection des conseillers départementaux. On aura le temps d'en reparler, mais on peut déjà donner quelques grandes lignes de ce texte qui va faire évoluer les choses. On se souvient que le Sarkozy avait supprimé les conseillers territoriaux au titre qu'il y avait trop d'élus. Donc les conseillers généraux deviennent des conseillers départementaux. Et dans chaque canton, c'est élu par un scrutin majoritaire à deux tours. Il est prévu de mettre les candidats par binôme, un homme, une femme, quoi. Par contre, pas de proportionnel, 20% était demandé par les Verts. Valls leur a répondu que ce n'était pas dans la tradition française. C'est une citation, hein. Et tout ça fait que le projet n'a pas fait l'unanimité au Sénat, au point qu'il a été mis en échec. C'est la sixième fois que le gouvernement est bloqué dans ses propositions de loi au Sénat. Il y a d'autres dispositions du style passer de 3500 à 1000 habitants par commune, la limite à partir de laquelle il faut présenter des listes aux municipales. Ce sera l'année prochaine, 2014, hein, c'est bientôt. Et puis aussi le fait qu'on ferait l'élection d'une pierre deux coups en élisant du même coup les membres à l'intercommunalité. En gros, les têtes de liste seront élus au municipal seront automatiquement intégrés aux assemblées de l'intercommunalité. Ça va être un petit peu compliqué, mais en même temps, bon, il y aura juste une indication qui permettra de savoir quand les 10 ans tels Gugus, on les lit aussi pour devenir membre des assemblées intercommunales. C'est un peu technique tout ça, mais c'est aussi la vie politique, celle qui nous gouverne et nous dirige. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On arrive un petit... Ah, il y a le procès pétrole contre nourriture. Hein. On se souvient qu'au moment de la guerre d'Irak, après 5 ans d'embargo, devant le peuple irakien affamé, les Américains ont dit qu'il faut faire quelque chose, donc on va autoriser l'Irak à vendre du pétrole. En échange de quoi? On leur donnera de la nourriture. Ah, il y en a qui se sont dit la belle affaire. Et ils n'ont pas perdu de temps. Saddam le premier, qui était toujours là, a commencé à prélever sur les stocks, a demandé des commissions sur les nourritures qui étaient reversées à la population, et pour finir, a aussi fourni des barils gratuits à ses amis. Alors dans les amis, il y avait du bon monde, il y avait Marjorie, le PDG de Total, il y avait Pasqua, il y avait l'ambassadeur de France à l'ONU, rien de moins, hein, tous des gens au-dessus de toute corruption, hein, on imagine bien. Eh bien, ces gens-là se retrouvent aujourd'hui dans un procès à Paris pour rendre des comptes sur ces sommes qui sont pas négligeables. Hein. Il y va de 10 millions de dollars, hein, quand même, qui ont été détournés de cette manière-là. Alors, le parquet qui a déjà été saisi a 2 fois rendu un non-lieu, mais c'était sous Sarkozy, on comprend peut-être mieux pourquoi. Peut-être que cette fois, le procès va vraiment avoir lieu. Voilà, nous approchons de 8h. Je vous propose peut-être de faire une pause musicale, si tu as un autre sujet. Et puis, ben, on conclura ce journal. La pause musicale, on va la faire avec Yvette Thérolas. Tiens. C'est d'actualité.
J'étais mariée, c'est comme un mauvais rêve. Je me souviens encore du jour. C'était un jour gris de septembre. On dit le plus beau de sa vie. Le portait une robe blanche, un bouquet. Un voile long d'au moins 10 mètres. La derrière portait ce grand voile, des petits hauts cols de velours, des petites boucles disciplinées. Peut-être était-ce mes enfants, mais ça je ne me souviens plus. Comme je ne me souviens plus de l'homme assis à mes côtés. Seigneur et maître, épouse de voir meilleur et pire, fin de nos jours enfant famille. Ma tante sanglotait dans un coin, mon oncle vomissait d'avoir trop bu, ma mère me disait à l'oreille, la première fois ça fait très mal, demande-lui de ne pas forcer. Mon oncle éloignait les enfants, car il en savait des cochonnes. Où dans votre voyage de noces, il canarie, dit le monsieur, qui me touchait, qui sentait fort. Ses yeux brillants et le teint rouge, cet homme je ne le connaissais pas. De trousseau, du fils qui allait.
Yvette Thérolaz interprétait sa composition pour les paroles, Lederman et elle pour la musique, mariée. Et Yvette Thérolaz, chanteuse voisine suisse. Vous êtes toujours sur Radio Canus en 2.2 MHz, Canu Info, une petite rubrique culturelle avec l'annonce de Jeanne Plante qui chantera à l'Iris le mardi 22, c'est à Villeurbanne, l'Iris. Et le vendredi 25, c'est Manu Galure. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Polaris, Soul Only, un spectacle de danse par la compagnie Arxom, c'est vendredi 25. Beaucoup de choses. Vendredi, samedi, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, Pierre Delorme, Frédéric Bobin, Sean Cohen, Dylan et les autres, des adaptations qu'ils ont souvent réalisées eux-mêmes, en couplet avec Dorothée Daniel à tout bout de champ. Le cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire aurait eu 100 ans, donc pas mal d'événements à l'occasion de cet anniversaire. Là, c'est une création de la compagnie Persona de cette année au Théâtre des Marronniers, qui est cette rue des Marronniers, Lyon 2e, comme chacun sait, du mercredi 16, donc c'est commencé, jusqu'au lundi 28, à 20h30 en semaine, dimanche 17h, lundi 19h, c'est trop tard pour ce soir, relâche mardi, demain il faut pas y aller, mais compte, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vous pouvez. Donc, une évocation en diction et en accompagnement musical, donc, du poème épique de René Césaire, Le cahier d'un retour au pays natal. Voilà, ce Canu Info se termine. Ne quittez pas l'écoute, bien sûr. On finit avec quelques notes de musique en compagnie de la musique de Gérard Lapalu. Et puis, je vous propose de nous retrouver lundi prochain. Le Canu Info sera rediffusé comme à notre habitude demain matin à 8h et vous pourrez le réécouter sur le site de Radio Canu, sur internet, le blog des Canu Info. Bonsoir.